Genèse chapitre 11, versets 1 à 9 pour la méditation d'aujourd'hui. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, au nom de Jésus. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, allons au travail pour mouler des briques et les cuire au four. Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. Puis ils se dirent, allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre de désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns des autres. Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celui-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Amen. Vous allez certainement me dire, drôle de choix de texte pour Pentecôte. Il n'y a aucun, on va dire, aucun mot qui parle du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est un peu l'antipode de ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, où c'est le Saint-Esprit qui a fait parler en plusieurs langues les disciples. Ici, c'est Dieu qui a donné plusieurs langues pour qu'ils puissent se disperser. On s'attendait plutôt à entendre sur le Saint-Esprit aujourd'hui, et là, vous nous parlez de la tour de Babel, selon peut-être quelques-uns parmi vous. Tout d'abord, je tiens à redire encore une fois de plus que je ne choisis pas moi-même le texte pour la prédication chaque dimanche. Je me suis fixé une tournante afin que vous puissiez découvrir d'autres textes bibliques à part les évangiles. Et donc un dimanche, je prends un texte de l'Ancien Testament, le dimanche suivant l'Épître, et le troisième dimanche, je prends l'Évangile, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, ça tombe sur l'Ancien Testament. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse prêcher, on va dire, un texte comme ceci, un jour de Pentecôte, justement pour nous dire déjà que le parler en langue n'est pas spécifique qu'à Pentecôte. Déjà, ça saute aux yeux. On a toujours eu cette tendance que le parler en langue, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Eh bien non. Genèse ici nous montre, il n'y a aucune mention du Saint-Esprit et les gens parlaient en langue. Donc cette mentalité pentecôtiste qui braque le projecteur sur le parler en langue comme signe sine qua non du Saint-Esprit, ce n'est pas du tout vrai. Ou en d'autres termes, nous ne sommes pas obligés de parler en langue quand on a reçu le Saint-Esprit. L'histoire de Babel en est la preuve. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les personnes qui ont élaboré le lectionnaire ont choisi ce texte parmi les lectures prévues pour aujourd'hui. C'est qu'il apporte, moi je pense, un éclairage sur le récit de la Pentecôte. Et en faisant le rapprochement entre l'histoire de la tour de Babel et la Pentecôte au temps des apôtres, nous pouvons déduire que les langues, c'est-à-dire les langues de différentes nations, sont des outils entre les mains de Dieu, des outils de décentralisation, des outils de démocratisation de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est plus le Dieu seulement d'Israël, d'un seul pays, d'une seule nation. Dieu est le Dieu de tout l'univers. Et c'est ça le message de Pentecôte. Le salut pour tout le monde et non seulement pour une nation. Je suis sûr et certain que la plupart d'entre nous, d'entre vous, avez déjà entendu pas mal d'explications sur ce texte de la tour de Babel. Et beaucoup ont tout de suite mis l'accent sur l'orgueil de l'homme qui voulait encore, une fois de plus, atteindre Dieu. Ça, c'est l'explication classique. Et tellement les projecteurs étaient braqués là-dessus que nous n'avons plus regardé ce qui se passait autour du texte. Pourtant, il y a une mine d'or dans le texte qui sont fort intéressants. Il serait injuste de tout de suite dire que tout ce que l'homme avait fait ici dans ce texte sont mauvais. Ça, c'est, pour moi, c'est une lecture tendancieuse. Il faut avoir une lecture objective. Regardez bien la façon dont l'auteur raconte comment la tour était construite. Il souligne tout de même ici la qualité de l'œuvre. Déjà, ils arrivaient à se parler entre eux. C'est très important de se comprendre. Et dans la plupart des pays, par exemple, où on a créé de toutes pièces les guerres civiles, comme en Afrique, c'était surtout dans les pays où il y avait plusieurs langues, où les gens ne se comprenaient pas. Et par conséquent, plus les gens ne se comprenaient plus, plus la discorde était facile à monter. Mais là, ils se sont bien entendus entre eux. Autre chose, ils arrivaient aussi à maîtriser les techniques de construction des bâtiments, avec la découverte des outils de construction. Regardez tous ces détails que le texte nous donne, la brique, les mortiers et l'asphalte. Donc, ce sont des détails qui ne sont pas du tout anodins, pour nous dire que l'homme a avancé dans la technologie. Et même l'Éternel lui-même, il a fait un constat positif au départ. Dans un premier temps, il a dit, regarde, ils sont un seul peuple. Ils parlent la même langue. Et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. En quelque sorte, même Dieu était en admiration de l'avancée de la connaissance de l'homme, de la technique des hommes. Ils ont acquis une certaine compétence technologique. Et si Dieu a embrouillé les langues, c'est pour justement qu'ils soient partagés, qu'ils vont partager leurs compétences afin d'assujettir le monde. Et c'est là qu'était l'erreur. Leurs compétences ne devraient pas être utilisées pour défier Dieu, mais Dieu disait, il faut que vous allez vous éparpiller dans le monde avec vos connaissances, avec vos savoirs, et essayez de partager vos connaissances à tout le monde. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont appris à Babel, parce que Babel c'est une ville, ils doivent les partager partout dans le monde. C'était le message sous-jacent des prêtres pour dire, ceux qui étaient en captivité en Babylonie, ils étaient là, ils ont reçu les techniques de construction, et Dieu a dit, le temps est venu de revenir à Jérusalem pour construire le temple. Donc, vous voyez, même les enfants de Dieu, Dieu les forme aussi dans des endroits qu'on pense être profanes. Regardez comme Moïse, avant que Dieu l'a choisi pour sauver son peuple, il lui a donné une éducation égyptienne. Il a suivi des cours. Ce n'est pas par hasard que Moïse est devenu chef. Il était prince héritier du pharaon. Il a reçu toutes les éducations d'un futur pharaon, c'est-à-dire être un chef de guerre, quelqu'un qui sait gérer une nation. Il avait plusieurs langues, et quand sa formation était complète, c'est là que Dieu a dit, maintenant tu pars dans le désert. Voilà le message qui est derrière ce texte. Et c'est aussi ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Rappelons-nous de ce qui s'était passé juste après la résurrection de Jésus. Ils se sont d'abord enfermés. Ils croyaient que être ensemble, prier ensemble, se retrouver entre eux, c'était le top. Eh bien non, ce n'était pas le projet de Dieu. Et même après, lorsque l'Église a connu une telle croissance incroyable, on disait qu'ils étaient si nombreux. Il est dit que le nombre de personnes qui venaient rejoindre la communauté était tellement importante. Et tellement cette communauté était tellement importante que les crises commençaient à se ressentir. Et comme avec l'histoire des veuves hellénistes, les Grecs et Juives, on voit le problème de partage des dons, puisqu'on n'arrive plus à gérer une grosse nombre de personnes comme cela. Donc, historiquement parlant, l'Église de Jérusalem, rappelez-vous, s'est vite affaiblie par rapport aux autres communautés hellénistes. Et c'est le plan de Dieu. À l'œil d'un humain, c'est un échec de voir une Église qui s'est éparpillée. Or, la conséquence, c'est qu'ils sont partis dans le monde pour élargir le royaume de Dieu. Voilà la vision de Pentecôte. Ça, c'est l'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte, ce n'est pas de rassembler des gens pour avoir un nombre important. L'esprit de Pentecôte, c'est d'aller dans le monde pour que tout le monde puisse entendre la parole de Dieu. Et la persécution aussi était un outil dans les mains de Dieu pour qu'ils puissent partir. Sinon, les premiers chrétiens auraient resté à Jérusalem. Et Namur aujourd'hui, Madagascar, les États-Unis n'auraient pas entendu la bonne nouvelle. À nous d'interpréter toutes ces pseudo-crises pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Est-ce peut-être la voix de Dieu qui nous dit, va dans le monde, les gens ont besoin d'entendre ma parole. Ne restez pas entre vous. Ça sert à rien de rester entre nous et que les autres n'entendent pas la parole de Dieu. Oui, la persécution n'arrangeait pas les choses. Beaucoup ont dû partir pour fuir dans un premier temps, mais par la suite, c'est grâce à cela que les églises des diasporas ont pu se développer. Et actuellement, dans le monde de l'œcuménisme, j'en fais partie d'une commission de l'œcuménisme au niveau fédéral, le thème de la théologie de la diaspora est de plus en plus développé aujourd'hui. La théologie de la diaspora. C'est-à-dire que l'avenir de nos églises protestantes, pour ne pas dire le présent de l'église protestante, se situe dans cette théologie de diaspora. Regardons un peu la composition de nos paroissiens. Il y a toute cette multiculturalité. Nous pouvons déjà le sentir dans les profils des ministres de culte, toutes dénominations confondues. On le sent déjà que Dieu veut faire éparpiller son Église partout. Il n'y a plus d'Église que pour les Belges, que pour les Français, que pour les Hollandais. L'Église de Jésus-Christ pour le monde entier. Autre chose, ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus nous a forcés d'avoir une réflexion, je trouve, plus décentralisée de ce que c'est que l'Église. Et ce serait dommage de se dire, oh, c'était juste un sale moment à passer et nous allons revenir comme avant. Ça, je trouve, c'est une faute grave. Alors, nous avons raté le tir parce que nous nous sommes tous rendus compte que Dieu voulait se rapprocher de chaque foyer, de chaque nation, de chaque quartier. J'avais fait la réflexion suivante un jour. Avant même la crise, c'était 2 ou 3 ans passés, et je le redis aujourd'hui, imaginons qu'un jour, je ne prophétise rien, je ne suis pas un prophète, mais c'est une imagination que je me suis faite, un jour nous ne pourrions plus avoir l'occasion d'aller dans un quelconque temple pour des multiples raisons. Ce n'est pas forcément une persécution, regardez. Avec un virus, nous avons été stoppés. Mais il y aura d'autres choses qui vont encore venir. Ça, je peux vous l'affirmer. Nous n'avons pas prévu qu'un virus pourrait nous paralyser. Mais pour moi, je prends cette histoire, ce que nous avons vécu à travers cette crise, cette histoire est comme un signal donnée par Dieu pour nous dire « Ne soyez pas si sûrs, ne soyez pas si sûrs d'être dans votre tour d'ivoire ou dans votre confort ecclésiastique. Tout peut arriver du jour au lendemain. Tout peut nous tomber dessus. » Et je ne vous fais pas peur, c'est l'histoire qui nous le montre. La grande question qui se pose alors, sommes-nous prêts spirituellement parlant et ecclésiastiquement parlant à traverser une situation pareille? Si un jour, nous ne pourrons plus jamais aller dans un lieu de culte, comment serait notre foi? À un certain moment, l'Église de Jérusalem s'est éparpillée, comme je l'ai dit, un peu partout pour remplir vraiment sa fonction de sel, le sel dans le monde. Vous savez, le sel, il doit disparaître pour que son environnement soit dans une saveur que nous attendons tous. Si vous voulez savoir ce qu'est une église qui a réussi sa mission, ce n'est pas en fonction du registre qu'on peut trouver la réponse. Combien d'enfants ont été baptisés? Combien de membres? Combien de membres électeurs? Combien d'offrandes? Ni dans la taille, ni dans la beauté du temple, ni dans son architecture. Une église, je trouve, qui a atteint sa mission, sa maturité, est une sorte de pépinière pour les autres. Voilà ce qu'est une église, une pépinière qui va aller être plantée ailleurs. Et ces gens-là devraient devenir des leaders partout dans le monde. C'est pas grave, même si on ne les revoit plus chez nous, mais plus tard on entend que telle personne qui était membre de notre paroisse est devenue pasteur dans tel endroit, est devenue évangéliste en Afrique, est devenue je ne sais pas quoi, mais qui sont des leaders. Voilà l'Église qui a réussi sa mission. Et si l'un de ses membres doivent quitter la communauté, non pas pour des raisons de discorde, bien sûr, mais pour d'autres raisons, ça pourrait être professionnel ou personnel, à nos yeux, mais tout ça c'est un plan de Dieu, dans un autre pays, dans une autre ville, où ils vivront, nous serions fiers de savoir qu'il ou elle deviendrait des leaders ou des responsables d'église là où ils seront. On m'a envoyé une photo hier du séminaire où on m'a formé en 1999. Et des vieux souvenirs qui me reviennent, même au moment, pendant les pauses café, entre deux cours. Et là, je me trouve à Namur, à 12 000 km de cet endroit. Et j'ai dit à mes anciens profs, vous avez réussi votre mission. Vous avez formé des pépinières et là maintenant, Dieu m'a planté ici quelque part pour proclamer sa parole. C'est ça la mission de l'Église. Ça fait mal parce qu'on veut garder les gens autour de nous, mais ce n'est pas ça l'esprit de Pentecôte. Jésus a dit, je dois quitter, sinon vous n'allez pas partir. C'était ça le problème. Les disciples voulaient toujours rester collés avec son maître, mais non. Il faut grandir spirituellement. C'est comme les enfants à la maison, on aime bien les voir autour de nous, mais un jour, ils doivent partir. Ils doivent créer leur propre nid. C'est ça, grandir aussi dans l'Église. Et l'apôtre Jean aussi avait écrit dans son épître une certaine satisfaction lorsqu'il entend un bon retour de ses enfants spirituels. Avec un soupir, il a dit dans 2 Jean chapitre 4, il a dit, j'ai été très heureux de constater que certains de mes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Voilà, c'est ça la satisfaction. Quand tu reçois un SMS, un mail, une lettre, un de tes anciens paroissiens ou des enfants que tu as éduqués à l'école du dimanche et que tu entends qu'ils sont devenus des responsables d'église, ça, c'est une satisfaction. L'esprit de la Pentecôte, chers amis, c'est la mission. Avoir un esprit missionnaire. Pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer dans une association ou une institution. Ce n'est pas cela. Juste cette idée de décentralisation de la mission. Est-ce que tu veux être missionnaire de Jésus-Christ là où tu es? Que chaque individu se sente concerné de l'appel qu'il a reçu lors de son baptême. Oui, quand nous avons été baptisés, non seulement nous avons reçu le titre d'enfant de Dieu, mais la première chose que nous avons reçue, c'est être enfant de Dieu, bien sûr, mais la deuxième chose que nous avons souvent oubliée, c'est que ce titre d'enfant de Dieu va toujours avec le titre d'ambassadeur. Le jour où tu as été baptisé, tu as reçu un appel, va et annonce la bonne nouvelle là où tu vis, dans ton quartier, dans ton village, dans ton boulot ou à l'école, peu importe, tu es un missionnaire. Et quand le Fils de Dieu était sur terre, il était l'envoyé du Père, comme dit la parole. Jésus a dit dans Jean chapitre 20, versets 21 et 22, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Vous avez entendu ce qu'il a dit? « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et il a soufflé l'Esprit de Dieu sur les disciples. Donc, celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas rester dans son coin. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu qui reste immobile et qui ne va pas en mission, je doute de son titre d'enfant de Dieu. Regardez bien l'articulation entre le Père qui envoie le Fils et de la même manière, il nous envoie aussi parce que nous sommes enfants de Dieu et cela à partir du moment où il nous a donné son Esprit Saint qui sert de sceau, vous voyez le sceau royal, attestant que nous sommes ses enfants. Mais aussi un sceau, le sceau royal qui valide notre mission. Tu as reçu un ordre de mission. Qu'est-ce que tu en as fait? Je fais toujours cette blague à l'époque dans l'église où j'étais à Madagascar. Quand je donne la carte de baptême aux parents, juste après le culte, je fais toujours cette blague aux parents. Voici votre ordre de mission. Ce n'est pas juste un papier où on va mettre dans un dossier, dans un archive, après 20 ans plus tard, si on a besoin, on retire. C'est votre ordre de mission. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des missionnaires. Et je vois un peu la réaction des parents qui est un peu bizarre, mais c'est ça notre mission. Donc pour clôturer cette méditation, celui qui se sent vraiment aimé du Père ne peut pas rester inactif. L'amour du Christ le pousse à aller de l'avant. Et Paul l'a dit, en effet, l'amour du Christ nous saisit. Amen.